Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Je vais venir avec mon premier inspecteur lors de ma première inspection. Mmh. À la fin de la séance, il m'a applaudi. Il m'a dit, Madame Deidey, on ne dirait pas une débutante. La récompense consistait à avoir des bonbons, un morceau de chocolat. Mais si on m'a répondu très très bien, on bénéficiait d'une sortie avec mon père le samedi après-midi. Alors pour moi, la retraite, c'est un couronnement. C'est pas la fin, mais c'est le début.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Médi 1. Karima, Job Story.
Mon invitée aujourd'hui, c'est Rachida Deidey. Elle est enseignante depuis plusieurs années, de la passion, de l'ambition et un amour inconditionnel, notamment pour la littérature. On retrace ensemble son parcours aujourd'hui. Rachida Deidey, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Madame Karima. Oui, c'est avec un grand plaisir moi aussi de m'avoir accordé ces moments-là. Oui, je vous remercie infiniment.
Bah, c'est un plaisir, Rachida. Alors, on le sait, toute carrière a un début, un point de départ. Ramenez-nous à vos premiers pas dans l'univers professionnel.
Alors, mon premier pas dans l'univers professionnel, c'était le 21 septembre 1987, après des études universitaires. Ensuite, après une formation à l'école normale supérieure, ici à Meknès. Voilà, j'ai pu accéder aux classes d'enseignement.
Excellent. Est-ce qu'on peut dire que l'enseignement, est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Vous vouliez toujours enseigner, être dans le partage de savoir, etc.
Tout à fait. Oui, depuis mon jeune âge, je n'ai jamais joué à la poupée. Mais toujours, je voulais jouer à la maîtresse, incarner le rôle de la maîtresse. Mes élèves, c'était mes frères et sœurs. Et je me servais d'une porte en bois, en guise de tableau. Alors, je faisais avec eux des révisions, la table de multiplication, et de petites dictées. Et j'ai trouvé une grande joie, une grande fierté. C'était dans mon âme depuis mon jeune âge.
Donc ça a commencé très tôt finalement. C'est intéressant de revoir ça parce que généralement quand on devient adulte, on oublie un petit peu ce qu'on aimait quand on était enfant. Mais je pense que ça en dit long sur ce qu'on est en tant qu'adulte. Mais bon, le temps nous rattrape, donc on vit notre vie d'adulte, etc. Et on oublie un petit peu ces petits moments d'innocence. Et généralement, ça nous mène à un point précis à l'âge adulte.
Oui, tout à fait. Ça dépend des circonstances, des conditions. Mais l'enseignement, l'apprentissage, le rôle de la maîtresse a été ancré. J'étais imprégnée par ce rôle. Voilà, c'était toujours dans mon âme et dans mon esprit.
En tout cas, c'est un métier très noble parce que c'est à travers l'enseignement justement que des générations apprennent et deviennent des adultes avertis. Et puis voilà, j'ai toujours pensé que l'enseignement, c'était très très noble quand on le fait bien sûr avec amour et on est vraiment dans le partage et dans la bienveillance. On peut impacter des générations entières et ça n'a pas de prix.
Tout à fait. C'est une mission noble, c'est une mission qui n'a pas, qui n'a pas de prix ou bien dont la valeur est grandiose.
C'est vrai, inestimable, effectivement. Rachida, en tant qu'enseignante, quelle a été votre première expérience cette fois dans l'enseignement? Ramenez-nous un peu, est-ce qu'il y a eu du stress? Parce que voilà, ça va nous ramener aussi, ça va me ramener personnellement à peut-être mon enfance, mon adolescence, etc. Quand on a un nouveau professeur ou une nouvelle enseignante, on n'a pas idée peut-être que même l'enseignant est peut-être un petit peu en stress parce qu'il découvre une classe, il a une lourde responsabilité sur les épaules. Comment s'est passée votre première expérience d'enseignement? Est-ce que vous en gardez un bon souvenir?
Alors, comme vous avez dit, comme les élèves ont de l'angoisse, ils se demandent, ils se posent des questions, quel professeur on aura. Je pense que c'est la même chose pour le professeur, surtout quand il s'agit de sa première année. Alors, moi, j'étais aussi impatiente, j'avais hâte de me retrouver dans ma classe, de voir mes élèves. Et j'avais une grande anxiété. Je me demandais comment est-ce que je vais être à la hauteur de gérer la classe, de maîtriser les élèves et tout. Donc, je me posais énormément de questions. Et pour le souvenir, oui, j'ai un souvenir que je n'oublierai jamais, c'est que cette année-là, bon, à l'époque, normalement, la rentrée scolaire était prévue le 16 septembre. Mmh. Exceptionnellement, cette année, ça a été reporté au 21 septembre. Donc, ces quelques jours pour moi étaient une éternité. Mmh. Et je ne savais pas, je me disais, pourquoi, mon Dieu, quelle chance, cette année-là, la rentrée scolaire, on l'a retardée. Donc, vraiment, j'étais sur mes nerfs et j'étais curieuse, surtout curieuse de me voir avec mes élèves, avec la classe, la gestion du temps, comment je vais présenter le cours. Voilà, donc j'étais aussi anxieuse que les élèves.
Et vos élèves avaient quel âge ?
Alors, c'était des élèves du lycée.
D'accord.
Donc, voilà, je dirais 16 ans, 17 ans. Il y avait aussi des élèves en deuxième année bac quand même. Mmh. On était presque du même âge, il y avait, parce que moi, j'avais l'âge de 23 ans. Donc, voilà.
Et aussi, c'est des adolescents, ils sont en pleine adolescence, donc c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est non seulement le cours, mais aussi les caractères. On est passé par là, on sait ce que c'est.
C'est pas facile. Ouais. Parce que pour moi, je dis toujours, la classe, c'est une société en miniature.
C'est vrai.
Donc, différents types, différents cas, différents caractères. C'est pas facile à gérer, c'est pas évident.
Effectivement.
Il faut non seulement avoir un savoir, mais un savoir-faire, un savoir-être. Mm. Il faut avoir de la patience, de la tolérance pour pouvoir gérer et mener la barque jusqu'au bout. Voilà.
C'est vrai. Et justement, cette notion d'âge, vu que vous étiez très jeune à l'époque, est-ce que c'était un facteur, un point positif, ou est-ce que c'était... on ne vous prenait pas au sérieux? Parce que des fois, ça se passe comme ça, surtout quand on est face à des adolescents. Si l'enseignant, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, est jeune, c'est soit on veut devenir ami avec l'enseignant, donc on casse un petit peu cette barrière d'autorité, etc. Ou soit on est en admiration. Quelle a été votre expérience par rapport à ça?
Alors franchement, moi, j'ai été influencée par un professeur que j'avais au centre pédagogique. Autoritaire, sévère, imposant. Je l'ai prise comme exemple.
Excellent.
Donc justement, vu mon âge, je voulais m'imposer tout au début, c'est-à-dire les premiers jours ou bien les premiers mois, je dirais franchement, j'étais autoritaire, imposante, exigeante. Et par la suite, ça facilite la tâche.
C'est vrai.
Ça facilite la tâche et ça vous permet de travailler très bien à l'aise. Et bien sûr, quand il s'agit, par exemple, des fois, ça arrive des incidents, un élève qui est malade, qui a un problème, c'est là où le prof, en tant qu'être humain, il doit faire preuve d'une grande compréhension, d'un grand humanisme. Et lorsque les élèves décèlent ça en vous, c'est-à-dire, d'un point, il y a le sérieux, il y a le travail, mais sur un autre point, ou bien dans un autre cas, vous faites preuve d'une grande bonté. Alors là, vous avez gagné, d'après mon expérience.
C'est vrai, c'est vrai. Finalement, tout est question d'équilibre, le juste milieu entre autorité et bonté aussi. C'est ça, le paramétrage à prendre en considération. Rachida, alors cette première expérience d'enseignement à part, comment se sont enchaînées pour vous les choses suite à justement cette première expérience?
Alors, j'étais dans mon élément. La classe était mon univers préféré. En ce qui concerne la maîtrise, la gestion de la classe. Mais en ce qui concerne la présentation des cours, c'était pour moi toujours une première fois. Parce que lors de la préparation, on a des objectifs à assigner, bien sûr. Et je passe en revue les élèves. Qui va comprendre dès la première fois, la première question? Pour tel élève, je dois répéter, je dois reformuler. Donc, j'avais toujours cette hantise et cette obsession de pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, ma satisfaction, et je ne me sens à l'aise qu'à la fin de la séance. Je regarde les yeux de mes élèves et vois s'ils sont satisfaits, s'ils ont pu assimiler et comprendre. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était toujours une première fois. Voilà, parce qu'elle a empêché d'atteindre les objectifs que l'on a assignés auparavant.
C'est vrai que vous avez totalement raison sur ce point, Rachida, vu que c'est des nouvelles classes, des fois aussi, c'est des nouveaux élèves, c'est des nouveaux profils, des nouvelles leçons. Donc c'est vrai que finalement, c'est un renouveau constant.
Oui, surtout, c'est la même classe, mais surtout, c'est pas la même leçon, toujours. Exemple, le texte de lecture, c'est pas la langue, c'est pas ça. Donc j'essaie de créer une atmosphère d'opter pour des stratégies ou bien des tactiques qui vont pouvoir m'aider et aider les élèves, parce que la réussite de cours, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Pas seulement les professeurs, mais c'est les élèves, c'est le cadre, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi le moment. Est-ce que c'est le matin, c'est l'après-midi?
C'est vrai.
Présenter un cours de 8h à 9h du matin, c'est pas de 5h à 6h.
C'est vrai.
Donc même le soir, pour les activités, c'était primordial et important. Je peux pas, par exemple, faire un texte de lecture de 5h à 6h. Les élèves sont fatigués, ils ont tendance à dormir. Donc non, je choisis une autre activité qui va les faire bouger et travailler. Donc c'est quand même un travail qui n'est pas facile, qui n'est pas facile. Il faut prendre en considération plusieurs facteurs. C'est pourquoi j'ai dit c'est toujours une première fois. Normalement, si on veut faire son travail comme il faut.
C'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, Rachida. Quand on veut bien faire les choses, parce que enseigner, je le dis encore une fois, moi j'ai toujours pensé que c'est une mission très très complexe et très compliquée. Quand on le fait bien sûr avec le cœur et qu'on prend vraiment en considération la responsabilité qu'on a sur les épaules. Parce que voilà, on garde toujours des bons souvenirs. Il y a tout le monde, je pense, même les personnes qui nous écoutent actuellement peuvent avoir que ce soit alors un bon ou un mauvais souvenir, des fois même traumatisant, d'un enseignant ou d'une enseignante. Donc c'est hyper important d'être bienveillant et laisser un impact positif sur l'enfant, l'adolescent ou même quand il s'agit d'études supérieures. Parce que même à l'âge adulte, on se rappelle de certaines phrases, de certains mots, de certains comportements aussi, et on n'oublie pas,
parce que notre métier ou bien l'enseignement, il y a des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Bien sûr, ce sont les objectifs à long terme qui imprègnent toute une génération, soit positivement, soit négativement. Donc, avec une conscience, parce que c'est une lourde responsabilité, on vise loin, on vise à ce qu'on laisse de bonnes traces et influencer bien sûr positivement nos élèves et tout l'entourage de toute façon. Donc c'est pourquoi c'est pas évident. Enseigner, c'est pas facile. C'est une mission qui est très très difficile.
Oui. C'est vrai, effectivement. Rachida, si je vous demandais c'est quoi votre plus beau souvenir professionnel, je suppose que vous en avez sûrement beaucoup, parce que voilà, c'est une longue carrière, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'apprentissage. Mais si vous deviez en partager un seul avec nous aujourd'hui, ça serait lequel, de mémoire comme ça?
Alors, le meilleur souvenir, si j'ai à choisir, c'est le souvenir avec mon premier inspecteur lors de ma première inspection. À la fin de la séance, il m'a applaudi. Il m'a dit, Madame Deidei, on ne dirait pas une débutante. Vous avez l'art d'enseigner. Pourquoi je tiens à ce souvenir? Parce que c'était le coup de pouce qui m'a aidé à travailler durant toute ma carrière. Des fois, lorsque j'ai fatigué, il ne faut pas baisser les bras. Donc, c'était toute l'énergie qu'il m'avait donnée, cet inspecteur-là. C'était mon meilleur souvenir. Oui, il y en a d'autres, mais
j'imagine,
ça...
ouais.
Oui, c'est tout au début de ma carrière et ça m'a aidé énormément. Oui.
Ça a été votre coup de pouce ou votre booster finalement.
Coup de pouce considérable. considérable, oui.
Et cette fois, Rachida, sur une note un peu plus personnelle, on sait que les carrières, généralement, sont un petit peu d'une façon ou d'une autre façonnées par notre entourage. Quand on dit entourage, c'est soit la famille, soit les amis, les connaissances, etc. Quel a été le rôle de votre entourage dans votre épanouissement professionnel?
Alors, mon entourage a été très ouvert à la culture française, surtout qui m'a aidé et qui m'a influencé, c'est mon père. C'était une personne qui aimait bien la langue française. À la maison, j'avais tous les moyens, c'est-à-dire livres, documents, dictionnaires, ce qui m'a aidé à faire des recherches, à faire des exposés. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet et tout, donc ça m'a facilité la tâche. Des discussions avec mon père et surtout qui m'a c'est-à-dire, ça m'a aidé même dans mon travail, c'est que mon père, il le réunissait deux ou trois fois par semaine, lisait un roman, il avait un don et un art de lire, de raconter, et nous expliquait, nous posait des questions de compréhension globale pour voir si on a compris. Et surtout, et aussi pour voir si on le suivait. Alors, pour ceux qui répondaient aux questions justes, ils avaient une récompense. La récompense consistait à avoir des bonbons, un morceau de chocolat. Mais si on a répondu très très bien, on bénéficiait d'une sortie avec mon père le samedi après-midi. C'était une victoire. On ne pouvait pas imaginer la joie. Donc, ce qui m'a aidé et ce que j'ai retenu, et je l'ai appliqué dans mes classes, c'est encourager, récompenser. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsque vous encouragez, vous mettez en valeur les efforts d'un apprenant, c'est le coup de pouce que vous lui donnez. Soyez sûr et certain que cet apprenant va être motivé, va suivre, va s'impliquer à 100% dans le coup. Donc voilà ce qui m'a aidée. Et après que j'ai compris que mon père, lorsque je suis devenue enseignante, que j'avais compris que même s'il ne fait pas partie du corps de l'enseignement, mais il avait une méthodologie. Il avait une méthodologie. Et si vous permettez, je le remercie. Je dis merci papa, vraiment, vous m'avez mis sur la bonne voie, vous m'avez donné de très bonnes habitudes. Voilà, si vous le permettez.
Mais bien sûr, la Yaoudi, avec grand plaisir, Rachida. Voilà, nos parents, généralement, ils sont, ils nous impactent d'une façon ou d'une autre, et c'est tout à l'honneur de votre papa d'avoir fait ça avec vous. Ça a fait la femme que vous êtes aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on le remercie aussi à notre tour.
Merci beaucoup, Madame Karima.
Avec grand plaisir, Rachida. Et tout au long de votre carrière, de votre parcours, il y a eu aussi cette envie d'écrire, cet amour pour la littérature aussi. Comment s'est-il concrétisé désormais donc à l'âge adulte?
Alors, à l'âge adulte, ou même avant l'âge adulte, j'ai commencé à écrire pour moi-même. Donc, c'était des esquisses, des tentatives d'écriture. Après, c'était un partage avec les amis passionnés, bien sûr, certains collègues. Ensuite, ce qui m'a aidé, c'est mon travail au sein de l'Institut français, là où on organisait des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture. Donc vraiment, c'était un travail fructueux, un travail enrichissant. Et ça m'a bien sûr aidé et m'encouragé, bien sûr, à écrire davantage, à suivre cette voie-là de la création, de la production. Parce que quand on lit, c'est vrai, on découvre les pensées des autres, on découvre la voix des autres, mais quand on écrit nous-mêmes, on découvre notre propre voix, nos pensées. Donc, c'est un autre privilège et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux.
Et vous
exprimer ses pensées.
Pardon.
Oui.
Et vous travaillez actuellement sur quelque chose dans ce sens littéraire?
J'écris des articles, quelques poèmes, c'est très modeste encore, mais bon.
Il faut bien commencer quelque part, au contraire, c'est très bien, on commence petit à petit, et quand on aime vraiment, quand on aime l'écriture et on aime les mots, ils nous le redonnent, ils nous le... Voilà, c'est un amour qui se partage finalement.
tout à fait, oui. Lorsqu'on a ce désespoir, à un moment donné, tu sens que tu as envie d'écrire, d'exprimer quelque chose, tu as assisté à un événement, une situation, donc ça nous dépasse.
C'est
l'envie
vrai.
D'écrire, ça nous dépasse.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est beau, c'est pas beau, mais l'essentiel, que s'il y a, c'est qu'il y a des sensations, qu'il y a un message, oui, pourquoi pas. Voilà, donc
c'est sincère.
Ça, tout à fait, oui.
Et actuellement, Rachida, l'enseignement, c'est fini. Vous êtes à la retraite, c'est ça?
Ah oui, je suis à la retraite.
Et comment parce que c'est vrai, vous savez, c'est la première fois dans Job Story que je reçois un invité ou une invitée à la retraite. Et je trouve, ça m'a donné aussi, franchement, pour être honnête, cette envie de faire parler aussi les personnes qui ont eu des carrières et qui sont actuellement à la retraite, parce qu'on a énormément de choses à prendre d'eux aussi, et que la retraite aussi, ce n'est pas une finalité, ça peut être un renouveau. Et c'est ce que vous nous montrez aussi, c'est que voilà, l'enseignement, ok, je suis à la retraite, j'enseigne plus, mais voilà, je m'adonne à d'autres choses, j'ai plus de temps, donc je peux faire ce que j'aime. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Voilà.
Sûr. Alors, pour moi, la retraite, c'est un couronnement. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début.
Ouais.
Le début d'une autre étape. Parce que, oui, il y a quelques années, on avait la passion de faire pas mal de choses. Mais bien sûr, avec le travail, l'engrenage de la famille et tout, on n'arrivait pas. Mais, Dieu merci, lorsqu'on atteint la retraite, c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est le moment où l'on va faire plaisir à nous-mêmes, faire plaisir à nos caprices. Et dire que je suis en retraite, oui, je n'exerce plus, je ne suis pas active en classe. Mais lorsqu'on est enseignant, on enseigne toujours. On a nos enfants, la famille tout.
C'est
partout. Il y a, par exemple, je continue maintenant à travailler au sein de l'Institut français ou bien dans d'autres centres. Donc, il y a toujours un travail à faire.
Je suis tout à fait d'accord.
Pas forcément, on est loin de la classe, mais le métier ou bien la fonction, je dirais, la mission est toujours là.
C'est vrai, je vous rejoins parfaitement. Je vous rejoins parfaitement et c'est très important de le souligner aussi pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont un petit peu cette crainte de la retraite. Faut pas avoir peur de la retraite. Voilà, c'est au contraire, c'est un moment très important de la vie et qui a beaucoup de choses à nous donner. Il faut juste savoir le vivre pleinement et puis voilà, tout se passera bien. Faut pas
exactement
paniquer par rapport à ça. Au contraire.
Au contraire, il faut se rattraper, il faut revoir ses documents, pas mal de choses. Relire des œuvres qu'on a lues à la hâte, faire des recherches qu'on n'avait pas le temps de faire. Donc, pour moi,
alhamdoulilah.
Quand on atteint cet âge-là, c'est une bénédiction.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis sûre que beaucoup de personnes le seront aussi. Rachida, avant de mettre fin à notre petite discussion, si vous deviez partager un seul conseil avec les jeunes qui nous écouteraient actuellement, qui sont, voilà, comme vous, amoureux des mots et passionnés de littérature, mais qui ne savent pas par où commencer, quel est le conseil que vous pouvez partager avec eux?
Alors, le conseil, bon, comme on dit toujours, il faut commencer par le commencement. Donc, osez écrire pour vous-même tout d'abord. Ne pas hésiter par la suite à échanger avec des amis, avec un entourage, avec des passionnés. Ne pas avoir peur du jugement. Lisez ce que vous avez écrit, présentez-le, sautez sur les occasions qui se présentent. Par exemple, des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture. Donc, il faut avoir l'audace et le courage de présenter son produit et de montrer son travail. Lorsque c'est un travail qui est sérieux, ça va être convaincant. Et toujours le début, on tâtonne, mais après, ça va venir avec le temps et avec d'autres occasions qui s'offrent. Mais tout d'abord, il faut oser, il ne faut pas rester plié sur lui-même. Cacher ce que l'on a écrit parce que j'ai peur. Non, il faut éviter la peur, éviter la crainte. Il faut avoir de l'audace. Voilà, et si c'est un travail qui est sérieux, ça va être convaincant. Voilà ce que je peux dire.
C'est un très bon conseil, Rachida Deydey. C'est d'ailleurs sur ce très bon conseil que se referme notre discussion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé votre parcours.
Plaisir. Merci à vous, Madame Karima. Merci de m'avoir accordé ces moments-là précieux pour pouvoir m'exprimer. Ça me fait un grand, grand plaisir, Madame Karima.
Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.